I don't know of any program in Uganda.
Of course not.
يصلون الليل بالنهار استعدادا.
¿Cuál sería su reacción?
21 веке гражданка Райс вспомнила.
这两天原本居住在祁连县偏远牧区的牧民达姆加
，Kapron ki lochere ki baat kar rahe hain.
Todos juntos.
Bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de Culture Monde, votre magazine d'actualité internationale quotidien. À la technique aujourd'hui, c'est Nicolas Delmas. À la réalisation, c'est Charles Le Gargasson. Merci à Clément Salzar et Antoine Dulster pour avoir préparé cette dernière émission de la semaine. Dernière émission un peu spéciale du vendredi, puisqu'il s'agit d'une table ronde d'actualité internationale. On s'intéressera aujourd'hui à la Turquie du président Recep Tayyip Erdogan. On peut employer la particule tant c'est le président turc qui s'illustre ces derniers jours par ses déclarations, ses coups d'éclat diplomatique, disons-le, le conflit entre le Haut-Karabakh et l'Azerbaïdjan, la relation avec Washington et son inclusion dans l'OTAN, l'accord sur les migrants conclu avec l'Union européenne, tout cela sur fond de rivalité avec la Russie et de guerre en Syrie, où le terrain change rapidement. Nous sommes déjà avec Dorothée Schmidt de l'IFRI, Emre Demir, rédacteur en chef du journal Zaman, et Gaïd Minassian, journaliste au Monde et chercheur à la FRS. Alors, est-ce que la stratégie diplomatique turque est payante? Est-ce qu'on peut parler d'une stratégie de la tension? Même, on tente d'y répondre dans 15 minutes. Pour l'instant, c'est l'heure de notre retour de reportage en partenariat avec l'Association des Prix Albert Londres et qui vient conclure cette semaine africaine de Culture Monde avec un pays que l'on n'a pas évoqué dans les 54 États africains, c'est l'Érythrée, longtemps considérée comme Corée du Nord de l'Afrique, mais les autorités auraient décidé d'en retravailler l'image.
Pour un petit pays, nous avons des représentations diplomatiques dans 28 pays. Nous avons de nombreux ambassadeurs ici. Cette idée que nous sommes un pays fermé et isolé ou qui cherche l'isolement, c'est faux.
Nous avons des informations indépendantes, mais pas de chaîne indépendante. Il y a seulement RITV, la chaîne du gouvernement.
Voilà un exemple de l'ouverture. Bonjour Nicolas Germain.
Bonjour.
Vous êtes journaliste pour la chaîne France 24, ancien correspondant de l'AFP et RFI en Érythrée justement de 2004 à 2006. Alors 10 ans après, vous vous y êtes de nouveau rendu en mars dernier avec le journaliste Roméo Langlois. Pour l'instant, on peut voir 2 courts reportages déjà sur le site de France 24 et un autre reportage de 26 minutes à la mi-mai. Il faut dire que ce sont des documents assez rares puisque l'Érythrée est surtout connue pour son manque d'ouverture. Je le disais, longtemps qualifiée de Corée du Nord de l'Afrique, longtemps en guerre située dans la Corne de l'Afrique, régulièrement dernière aussi au classement de la liberté de la presse de Reporters sans frontières. Il y a d'autres caractéristiques, un régime quasiment inamovible, un parti unique, un président depuis 26 ans au pouvoir, une pauvreté assez importante et une espérance de vie d'une 60aine d'années, et puis surtout une armée qui vampirise une partie du pays avec un service autant inconnu qui mobilise notamment la jeunesse, la vie des habitants. Donc 10 ans après votre départ, vous avez effectué ce qu'on pourrait dire une percée dans un pays que certains disent complètement figé. C'est l'occasion de constater les différences. Alors peut-être premier changement, justement, ça concerne les possibilités d'information, puisque c'était un pays qui refusait les visas pendant longtemps aux journalistes. Et là, ils ouvrent ce pays aux journalistes. Et même, c'est une démarche des autorités que de vouloir les inviter.
Oui, au départ, c'est l'ambassade d'Érythrée en France qui a pris contact avec quelques journalistes parisiens. Et donc, le contexte, c'est ça, c'est-à-dire que depuis plusieurs années, il n'y avait eu pratiquement aucun journaliste occidental en Érythrée. Et là, on note une petite ouverture, entre guillemets, depuis quelques mois. Ils avaient invité quelques journalistes britanniques, italiens. Et donc là, c'était autour des médias français. Donc, on était 2 médias français, TF1 et France 24. Donc, c'était il y a à peu près un mois.
Et dans la demande, ou disons dans la proposition qu'ils vous faisaient, vous vous rappelez des termes dans lesquels ils vous invitaient?
Ça s'appelait un voyage de presse. Donc nous, on savait que ça allait être encadré. Donc sur place, on avait la plupart du temps un employé du ministère de l'Information avec nous. Mais bon, il faut quand même préciser qu'il n'était pas tout le temps là. Il y a des moments où ils nous ont dit « vous pouvez aller filmer librement », par exemple dans les rues de la capitale Asmara. Donc il y a plusieurs moments où on a pu aller filmer librement. Mais donc quand on pose des questions aux gens sur le système politique du pays, là, ils ont peur de répondre. Les seuls qui parlent face caméra sont ceux qui soutiennent le régime. Donc même si l'employé du ministère de l'Information n'est pas là derrière votre épaule, quand il n'est pas là, les gens ont peur de parler.
C'est ce qu'on voit effectivement, on va en reparler dans une minute, mais juste avant, vous avez rencontré le ministre de l'Information qui s'appelle Yemane Gebremeskel. Dans le reportage, donc, on l'entend, il affirme que l'Érythrée a des représentations dans 28 pays. On comprend que ce n'est pas uniquement l'UE. Je crois que l'Érythrée a des relations avec la Suisse et Moscou, par exemple. Qu'est-ce que ça signifie, selon vous, cette volonté pour eux aujourd'hui?
Oui, on peut se demander pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ils décident d'ouvrir les portes. Alors après, tout est relatif, puisqu'il y a 10 ans, donc moi j'étais correspondant permanent à FPRFI, on était 2 correspondants permanents étrangers. Donc si on compare à il y a 10 ans, aujourd'hui il n'y a aucun correspondant permanent. Mais si on compare à il y a quelques années, il n'y avait quasiment aucun journaliste occidental. Donc là, il y a une petite ouverture par rapport à, disons, il y a 2-3 ans. Enfin, je crois que ça fait à peu près 6 ans qu'il n'y a aucun correspondant permanent. Alors pourquoi maintenant? Ça, c'est pas encore très clair. C'est peut-être lié au fait qu'il y a donc cet afflux de réfugiés en Europe. On sait que les Érythréens sont les quatrièmes après les Syriens, les Afghans et les Irakiens en nombre en Europe.
Oui, il y a 5000 départs par mois, je crois.
Voilà, c'est ça. Ouais. Selon l'ONU, 5000 départs par mois. Donc peut-être qu'ils essaient, ils se disent aussi qu'ils ont une image tellement négative dans les médias occidentaux. Et alors ils espèrent, en laissant entrer quelques journalistes occidentaux, peut-être que ça va changer. Ça, je suis pas encore sûr que ça soit le cas.
Et alors du coup, vous avez pas rencontré que le ministre de l'Information parmi les autorités. Il y en avait quelques autres. Je me rappelle plus lesquels, mais vous allez nous le dire. Et qu'est-ce qu'ils vous ont dit? De quelle manière est-ce qu'ils ont essayé, dans le discours, de changer l'image du pays ou de vous montrer que ça avait changé?
En fait, eux, leur discours, c'est de dire qu'il n'y a pas d'ouverture, qu'ils ont toujours été ouverts et qu'il n'y a pas une ouverture aujourd'hui, que ça, c'est notre vision des choses. Mais parmi les officiels qu'on a pu rencontrer, donc il y a eu le ministre de l'Information, et Yemane Ghebreab, lui, c'est le conseiller politique du président Isaias Afewerki, et c'est en gros le chef du Parti Unique.
Et cette fameuse chaîne Eri TV, donc, dont on entend aussi un rédacteur en chef, je pense, dans le reportage, donc c'est la seule chaîne du pays, chaîne gouvernementale. Donc lui, ce rédacteur en chef, dit: nous avons une info indépendante, mais en gros pas une chaîne privée. Une info indépendante, ça veut dire quoi? Comment vient l'information en Érythrée?
En fait, c'est ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a aucun média indépendant privé en Érythrée. Donc il y a une seule chaîne de télé, une seule radio et un seul journal dans plusieurs langues. Donc il n'y a pas vraiment de médias indépendants.
Donc tous les journalistes qui travaillent pour Eri TV sont les journalistes officiels, oui.
Oui, oui,
oui, c'est ça. Alors justement, on parlait des autorités, on va parler des gens. On disait que 5000 personnes tentaient de fuir le pays chaque mois à cause des conditions. Vous, faut parler un peu géographie. Vous avez mis 6 jours pour couvrir 4 lieux, la capitale Asmara, le port de Massawa à l'est sur la mer Rouge, la mine de cuivre de Bichat dans l'ouest, pas loin de la frontière avec le Soudan, et puis un troisième lieu à Gordat, entre les deux, une ville plutôt moyenne. Pour l'instant, on voit que 2 lieux dans le reportage, la capitale Asmara, 800 000 habitants. Justement, vous le disiez, une atmosphère un peu pesante, une atmosphère de peur. On voit des gens qui fuient quand vous les interrogez, par exemple.
Oui, tout à fait. Mais en fait, ce qui est bizarre, c'est que si on arrive sans rien connaître à l'Érythrée, on a l'impression qu'Asmara, voilà, c'est une capitale très agréable, il fait beau, il y a des palmiers, une architecture italienne des années 30, art déco. Donc si vous parlez pas aux gens, tout a l'air, les gens sirotent des cafés et des macchiatos en terrasse, tout a l'air plutôt sympathique. Mais c'est ensuite, si vous essayez de parler politique, c'est là que vous voyez la peur dans le regard des gens, quoi.
Oui, et la peur qui se manifeste même à l'écran. Il y a certains coups d'œil qui trompent pas. On pourrait dire, quand il y a une jeune fille qui vous répond qu'elle ne sait pas pourquoi les jeunes partent faire l'âge, la cite, je ne sais quoi à l'étranger. Alors ensuite, elle se tourne vers son amie, elle lui sourit un peu comme si elle était soulagée de sa réponse. Ça veut dire qu'elle était surveillée, on se dénonce beaucoup dans ce pays. Comment vous interprétez cette attitude?
Oui, c'est même déjà, quand j'habitais là-bas entre 2004 et 2006, en fait, tout le monde a peur que son voisin le dénonce. Il y a un peu cette ambiance-là, on ne sait pas qui travaille in fine pour le gouvernement. Et donc c'est vrai qu'il y a toute cette peur de la délation tout le temps, quoi.
Et avec une chose, une remarque, on pourrait dire linguistique, quand même, qu'on voit dans votre reportage et dans d'autres sur l'Érythrée, c'est qu'ils parlent bien anglais, les Érythréens. Est-ce que c'était déjà comme ça en 2006? Est-ce que c'est un signe d'ouverture? Parce que c'est pas un héritage historique, forcément.
Oui, c'était déjà le cas. Et puis, bon, sur le côté positif, entre guillemets, du gouvernement, il faut savoir que l'éducation et la santé sont gratuites là-bas. Alors, il y a souvent, on dit, voilà, la Corée du Nord de l'Afrique. Là, mon collègue Roméo Langlois, lui, qui était déjà allé à Cuba, il m'a dit que lui, ça lui faisait penser un peu peut-être au Cuba de l'Afrique, quoi.
Intéressant. Du coup, vous parlez des choses qui fonctionnent. Il y a également cette mine de Bichat dans l'Ouest qui est intéressante, puisque là-bas, la paye est plutôt bonne. Et puis, on vous parle un peu plus librement. Donc, c'est une mine qui se trouve à 5 heures d'Asmara vers le Soudan, c'est ça? Et c'était une ancienne mine d'or.
Alors au départ, là, quand ils ont commencé à creuser, il y avait de l'or. Ensuite, maintenant, ils trouvent du cuivre et ensuite du zinc. Mais en fait, pour pouvoir travailler dans cette mine d'or, il faut avoir terminé son service national qui peut donc durer parfois plus de 10 ans. Et donc là, les ouvriers érythréens qui sont là, ils sont plutôt âgés. Et ensuite, il y a quelques expatriés qui sont les cadres. Et donc la philosophie là-bas du gouvernement, c'est que les expatriés transmettent leur savoir-faire aux ouvriers érythréens. Le but, c'est que ce soit à terme 100% érythréen. Il faut se rappeler que le gouvernement est issu d'une guérilla marxiste, donc ils ont toujours cette idée. Et il faut savoir que cette mine, donc, c'est à 60% détenue par une entreprise canadienne, Nefson, et à 40% par l'État érythréen. Et si vous regardez les mines en Afrique, généralement, rarement l'État a autant que 40% dans une mine.
Et là, l'État arrive à attirer des entreprises, même en gardant la part des 40%.
Pour l'instant. Et donc là, ils disent qu'ils vont encore en ouvrir 2-3 mines d'ici 2018.
Oui, d'accord. Et dans cette mine, donc, vous le citiez, un fonctionnement original. Comment est-ce qu'il faut l'apprendre? Puisqu'effectivement, ancienne mine d'or, les cours de l'or se sont effondrés. Aujourd'hui, du cuivre, des projets de nouvelles mines, vous le dites. Est-ce que c'est un peu un témoin de la volonté du gouvernement de développer aujourd'hui une économie largement fondée sur une main d'œuvre, cette armée, justement?
Ben là, ils sont assez contents, je dirais, d'avoir découvert ces différentes mines, puisque, vous l'avez dit, c'est un pays qui est extrêmement pauvre. La plupart des habitants sont dans le secteur agricole. Et là, donc, il y a ces mines, ils espèrent vraiment que ça va pouvoir dynamiser l'économie du pays à terme.
Oui, avec 2%, je crois, de croissance à peu près cette année. Sur le service militaire, il faut quand même en dire un mot. Donc, effectivement, il y a peu de gens qui acceptent de vous en parler. C'est un sujet sensible. Il y a quand même un chauffeur de taxi qui vous en a parlé, mais il ne sait pas combien de temps il dure, ce service militaire.
Voilà, c'est ça. Le problème en Érythrée, c'est qu'il y a une personne qui va faire le service, ils appellent ça service national, ça peut durer 2 ans. L'autre personne, ça sera 4 ans. D'autres personnes, ça peut être 10 ans. Donc ça, c'est vraiment la raison principale pour laquelle les gens fuient quand vous leur demandez. C'est hors caméra. C'est vraiment le service national. Et quand on dit service national, donc en fait, ça peut être vous pouvez travailler comme garçon de café, vous pouvez travailler dans un bureau. Ça peut durer 10 ans. Et en fait, vous êtes très très mal payé, peut-être 30 € par mois. Et donc certaines ONG disent que en fait, c'est une sorte de main d'œuvre forcée, pas chère pour le gouvernement.
Et la population, comment est-ce qu'elle prend ce service quand elle accepte d'en parler? Est-ce qu'elle le prend comme une main-d'œuvre forcée, justement, comme un service à rendre à la nation?
Hors caméra, c'est très critiqué. Et ils disent, voilà, tous ceux qui sont partis, ils savent que c'est pour cette raison-là. C'est ce service national qui, on ne sait jamais quand il va se terminer. Et c'est vraiment la raison principale. Évidemment, il y a le fait qu'il n'y a qu'un seul parti, il n'y a pas de presse indépendante. Mais quand on parle vraiment aux gens, c'est vraiment ce service national illimité, c'est vraiment la raison principale pour laquelle il fuit.
Donc un régime qui est quand même beaucoup critiqué, mais pas face à la caméra. Je dis ça parce qu'il y a eu un épisode récent dimanche dernier à Asmara, intéressant. Donc il y a plusieurs sources, mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a un convoi de l'armée qui transportait un certain nombre de conscrits qui devaient aller travailler justement à des travaux forcés, ou en tout cas de force, dans un port. Et puis certains ont essayé de s'enfuir. Ils ont été abattus à vue. Et puis la population s'est pas révoltée, mais en tout cas, il y a eu des échauffourées.
Oui, ça c'est les informations qu'on obtient sur les sites de l'opposition. Le gouvernement, évidemment, lui, ne s'est pas exprimé sur ce sujet. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est pourquoi il y a ce service national. En fait, le gouvernement le justifie en disant qu'il y a cette menace de guerre avec l'Éthiopie. Alors il faut peut-être juste rappeler qu'il y a donc cette guerre de 98-2000, l'accord de paix d'Alger.
Très meurtrière, guerre de 100 000 ou 80 000 morts.
Voilà. Ouais. Et en fait, les deux pays avaient dit on acceptera le tracé décidé par une commission internationale. Cette commission a décidé un tracé et en fait, l'Éthiopie ne l'a jamais accepté et occupe aujourd'hui notamment la ville de Badme qui devrait en théorie être érythréenne. Et donc l'Érythrée dit, voilà, c'est parce que la communauté internationale ne force pas l'Éthiopie à accepter ce tracé que nous, on est en situation de tension et c'est comme ça qu'ils justifient le service national. Et donc quand on leur demandait pourquoi vous ne réduisez pas le service national par exemple, et ils disaient, ben c'est plutôt à vous, à la communauté internationale, de forcer l'Éthiopie à accepter le tracé et après nous on pourra changer notre système.
Et de la même manière que le service national, sa durée est invérifiable, c'est difficile aussi de se rendre compte de l'état des tensions sur la ligne de front, je crois.
Absolument, puisque donc dans ce voyage encadré, on avait demandé par exemple notamment de visiter la zone frontalière et ça ils n'ont pas voulu. Ils nous ont dit peut-être la prochaine fois, s'il y a une prochaine fois, parce que en fait on a eu l'impression que finalement, il n'y avait peut-être pas tant de tensions que ça le long de cette frontière. Ça fait 16 ans que la guerre est terminée, il n'y a pas eu d'accrochage majeur. Et ils n'ont pas voulu qu'on aille voir la frontière. Or, c'est officiellement les tensions qui justifient tout le système. Et là, j'ai trouvé ça intéressant qu'ils ne veuillent pas qu'on aille voir la frontière.
D'ailleurs, je crois qu'ils avaient même refusé une surveillance satellite ou aérienne sur cette frontière. Et puis, dernière chose, donc il y a deux autres lieux que vous avez visités, dans lesquels vous êtes allés et qu'on ne voit pas encore dans les reportages, mais qu'on verra dans les reportages à la mi-mai. C'est Massawa, ce grand port dans l'Est, à l'Est d'Asmara. Et puis, la ville d'Agordat, beaucoup plus moyenne. Je crois qu'il y a 9000 habitants dans l'Ouest. Pourquoi ces deux lieux? Massawa, c'est un lieu historique en fait de la résistance de Isaias Afewerki, le président.
Oui, absolument. Ça, c'est le grand port sur la mer Rouge. Donc là, on est allé, on a pu voir encore les ruines qui datent de la guerre de 30 ans de libération 61-91. Et ce qu'il faut savoir aussi avec Massawa, c'est que en fait, après la guerre de l'indépendance, en fait, l'Érythrée a pris toute la côte à l'Éthiopie. Donc l'Éthiopie n'a plus de côte. Et en fait, tout leurs importations, leurs exportations passent par Djibouti maintenant. Et or, si les deux pays étaient en paix, ils passeraient sûrement par Massawa. Et donc, ça développerait économiquement le pays. Donc, s'il y avait la paix entre l'Éthiopie et l'Érythrée, il y aurait vraiment un gros passage par le port de Massawa. Et c'est vraiment ce qui est vraiment un peu triste, cette guerre entre ces frères ennemis.
Et précisément, de ce point de vue-là, peut-être une petite conclusion géopolitique, mais vous avez cité Djibouti à côté, qui est un grand port qui se rêve un peu comme un Singapour de l'Afrique. C'est vrai que l'Érythrée a manqué cette occasion. Vous sentez une volonté de développer le pays en ce sens en ce moment?
Donc, en ce moment, il y a peut-être une petite ouverture, mais à quel point elle est réelle, ça je ne sais pas. Mais en fait, ce que disent certains analystes, c'est que tant qu'il y aura le même président, là, Isaias Afewerki, qui était le leader de la guérilla marxiste, donc qui est venu au pouvoir et qui est là depuis 91, donc 25 ans, certains pensent que tant que lui sera au pouvoir, il n'y aura pas de réel changement.
En tout cas, pas de projet d'infrastructure constaté à Massawa, ni de partenariat conclu avec les Chinois, on ne vous a rien dit de...
Enfin si, à Massawa, ils essayent de transformer le port, parce que pour l'instant, il n'y a quasiment aucune activité. Là, ils essaient de faire un port en eau profonde, mais pour l'instant, il y a vraiment très très peu d'activité à Massawa.
Entendu. Bon, on suivra ça alors dans le 26 minutes qui va être diffusé mi-mai sur France 24. Merci beaucoup Nicolas Germain d'être venu aujourd'hui. Merci. Le reportage mi-mai donc. Voilà, peut-être un commentaire à nos invités. Donc Dorothée Schmidt, directrice du programme Turquie contemporaine de l'IFRI, bonjour. Gaïd Zminassian, journaliste au Monde, pardon, bonjour. Et Emre Demir, rédacteur en chef, je regarde la mauvaise personne, pour la version française du quotidien national turc Zaman, bonjour aussi.
Bonjour.
Je disais un commentaire sur cette phrase. Lorsque je suis face à un défi, je deviens plus têtu, plus rigide. Je suis très émotionnel. En fait, c'est Isaias Afewerki qui a dit ça. Ça vous inspire quelque chose également?
Oui, vous pensez probablement à Tayyip Erdogan, j'imagine.
On va passer à la table ronde, c'est ça, sur la Turquie.
France Culture, Culture Monde, Xavier Martinet.
Pour nous, pour la Turquie, la question des réfugiés n'est pas une question de marchandage, mais une question de valeur humanitaire, ainsi que de valeurs européennes.
Turkey is a NATO ally. It is an extraordinarily important partner in our fight against ISIL.
La Turquie est notre allié, membre de l'OTAN. C'est un allié extrêmement important dans la lutte contre l'État islamique. C'est un pays avec lequel nous avons une relation stratégique depuis longtemps. Et depuis que je suis président, j'ai eu l'occasion de travailler avec le président Erdogan. Sur de nombreux sujets, notre partenariat est productif. Ce qui est également vrai, et j'ai eu l'occasion de lui en parler directement, ce n'est pas un secret, il y a certaines choses qui se passent en Turquie qui me dérangent.
La Turquie soutient l'Azerbaïdjan contre l'agression arménienne au Karabagh. Le Karabagh retournera un jour sans aucun doute à son propriétaire originel. Il appartiendra à l'Azerbaïdjan.
Voilà, on a entendu le premier ministre turc Ahmet Davutoğlu, Barack Obama, et puis juste là, Recep Tayyip Erdogan, le président turc. Alors depuis un an au moins, le président turc multiplie ce qu'on pourrait appeler les accrochages diplomatiques. Dernière en date hier, c'était la menace de ne pas respecter l'accord sur les migrants qui avait été signé avec l'Union européenne le 18 mars. Donc les motifs de brouille ne manquent pas, la guerre relancée contre les Kurdes, la brouille sérieuse avec la Russie, les critiques aux atteintes à la liberté de la presse, sans compter l'ambiguïté qui est cultivée ou pas dans la position face à l'État islamique, la guerre en Syrie et dans la question de la gestion des flux migratoires. En tout cas, le président Erdogan donne l'image d'une Turquie martiale, voire autoritaire. N'est-elle pas, de ce point de vue-là, en position de force pour négocier ? On posera la question au sujet de l'accord avec l'Union européenne. En tout cas, à entendre le ton désabusé de Barack Obama, la seule chose qui relierait les États-Unis à la Turquie aujourd'hui serait l'utilité de la Turquie dans l'OTAN, dans la lutte contre l'État islamique. Donc, son image pourrait être dégradée. Et puis, le deuxième point, ce sont, outre les tensions internationales, la pression intérieure qui accompagne ce mouvement. On a presque l'impression d'un parallélisme dans les rapports d'Ankara avec le monde et dans les rapports d'Ankara avec la société turque elle-même. Alors, est-ce qu'il y a encore une diplomatie turque ou bien la posture présidentielle aujourd'hui de Recep Tayyip Erdogan a-t-elle tout dévoré ? Enjeux géopolitiques ou enjeux nationaux, voire enjeux intérieurs aux personnages, voire même inconscient régional. C'est ça qu'il faudra distinguer avec nos trois invités. Peut-être commençons avec Emre Demir. On voit que côté allemand, par exemple, qui était le bon ami jusqu'ici, la presse s'est déchaînée. On parle de l'homme furieux du Bosphore. Côté turc, on sait que la presse a fait l'objet d'une vigoureuse reprise en main. Le journal Zaman en a fait les frais. Il a été mis sous tutelle. Et savez-vous ce que dit la presse turque aujourd'hui de ces rodomontades ou de ces déclarations ?
Oui, je peux dire qu'il y a une ambiance piscose en Turquie. Actuellement, par exemple, le procès pour l'insulte au président, qui se multiplie partout en Turquie, hein, les simples citoyens, mais aussi des journalistes. Jusqu'à aujourd'hui, 1845 procédures judiciaires ont été ouvertes depuis l'élection à la présidence d'Erdogan, ça veut dire depuis 16 mois. Et donc plus de 300 entre eux, ce sont des journalistes. Et quand on est en général, des peines de prison avec sursis sont prononcées dans ces procès. Et si vous écrivez à nouveau un article juge déplaisante, donc vous écopez vraiment d'une peine de prison de ferme. Et donc, quand on parle aussi sur la situation de la presse, vous avez évoqué mon journal Zaman qui était confisqué par le pouvoir 4 mars. Il y a eu multiples atteintes à la liberté de presse depuis. Par exemple, en 5 mois, 17 chaînes de télé ont été retirées du satellite et donc ils ont dû cesser l'activité. Et à part deux semaines après, par exemple, l'agence de presse Jihan ont été confisquées. Et, une grande société de distribution de la presse ont été confisquées par le pouvoir et ils ne distribuent plus 6 journaux d'opposition, des petits journaux d'opposition. Donc ce n'est plus possible de recevoir vraiment par moment ces journaux.
Donc pas de commentaires en Turquie sur la situation diplomatique.
Exactement. Et puis pour évoquer, il y a aussi un procès symbolique, celui de rédacteur en chef de Cumhuriyet, le journal d'opposition Can Dündar et Erdem Gül. Ils ont menacé vraiment ici. Prison. Ils ont pas été arrêtés la semaine dernière car Erdogan était en visite aux États-Unis. Mais le risque continue, à mon avis, Erdogan, c'est quelqu'un qui n'oublie jamais ses ennemis, entre guillemets. Et donc, je pense que le risque est réel. Et il y a vraiment une silence totale dans la presse turque. Les gens sont effrayés. Ça, il faut le dire.
Et vous avez bien fait de souligner dès le début cette situation, cette pression mise sur la presse, puisque ça nous fait entrer directement dans le vif des relations avec l'étranger. C'est une situation que l'Union européenne a tardé à commenter, ou en tout cas a tardé à commenter au plus haut niveau, puisqu'on avait vu, je crois, avant le début de l'année, le président du Parlement, Martin Schulz, en parler. Mais là, il y a eu un communiqué des autorités diplomatique européenne, mais c'était un communiqué écrit, c'est pas Federica Mogherini qui a parlé. On voit que Obama là aujourd'hui est en train d'en tenir compte dans ses rapports avec la Turquie, mais tout de même c'est une situation qui a un peu paralysé l'étranger Dorothée Schmidt.
Alors la première chose qui est très importante à comprendre avec les éléments qu'a donné Emre, c'est qu'en fait en Turquie on a une distorsion complète de perception à la fois de la situation en Turquie même et de la situation internationale. Pour vous donner un simple exemple, après l'attentat de Zaventem et du métro de Bruxelles, on a eu à la une de la presse pro-gouvernementale en Turquie des portraits de pékakistes qui ont été affichés, disant le terrorisme frappe Bruxelles, avec une espèce de généralisation complètement à la turca de la perception de la situation européenne. Donc on est dans une confusion absolument totale, et ça c'est extrêmement important, parce que au bout d'un moment, ce système de confusion, il gagne aussi, je dirais, la représentation politique européenne. Parce que dans le dialogue avec Tayyip Erdogan, les Européens écoutent ce que dit Tayyip Erdogan. Et que le problème, c'est que moi qui étais pas mal... Dans des éléments de discussion avec notre représentation nationale, aussi bien des députés que des sénateurs ici, il faut arriver à leur expliquer à quel point on ne sait pas ce qui se passe en Turquie aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment très intéressant, parce qu'en fait, le pays s'isole totalement, continue d'être considéré comme une puissance qui est un partenaire indispensable. Et mon point est toujours de dire, OK, on a deux questions. C'est d'une part la morale, d'autre côté l'efficacité. Alors sur le plan de la morale, visiblement, on a un petit peu lâché du lest. Hein, mais sur le plan de l'efficacité, il faut quand même s'interroger sur la stabilité aujourd'hui de la Turquie. Est-ce que la Turquie est encore aujourd'hui un État solide? Est-ce que c'est un État qui est tout simplement... capable de faire ce qu'on lui demande, compris dans l'accord avec les réfugiés.
Et on va poser la question tout de suite. Simplement un commentaire là-dessus, peut-être Gaïs Minassian. La Turquie qui a déjà là presque une victoire finalement de Recep Tayyip Erdogan en arrivant à influer sur la perception des Européens, c'est-à-dire faire passer le PKK sur le même plan qu'une entreprise terroriste.
Mais c'est pas nouveau. La rébellion kurde qui date au moins des années 80... du côté turc, que ce soit les kémalistes traditionnels ou ce qu'on appelle les membres de l'AKP au pouvoir 2002-2003, c'est le même discours sur le PKK. Hein. Je parle pas de la question kurde, mais sur le PKK, c'est le même discours. C'est que le PKK fait partie de cette liste noire, du terrorisme international, et a fortiori depuis le 11 septembre 2001, et encore plus, comme vient de le rappeler Dorothée Schmidt, depuis les attentats de Bruxelles. Donc ils veulent effectivement... systématiser la lutte contre le terrorisme en disant, voilà, il faut mettre sur un même plan Daesh et le PKK.
Ce qui veut dire que, par exemple, la pétition qui avait été lancée par un certain nombre d'universitaires à l'époque de la guerre relancée contre le PKK n'a pas porté, ces arguments-là n'ont pas porté, donc.
Vraisemblablement non.
Mmh. Donc, je le disais, vous considérez ça comme une victoire ou alors comme plutôt la continuité, donc?
C'est une continuité, mais s'il y a aussi une autre continuité, c'est la diplomatie du chantage. Je veux dire, on sait très bien, et ça remonte à l'époque ottomane, je veux dire, la Turquie a toujours utilisé cette méthode du chantage pour parvenir à ses fins. Et nous, Européens, à l'époque ou aujourd'hui, effectivement, la Turquie est un État important. Qu'il n'irait, je veux dire, faudrait être aveugle. Mais ça ne suffit pas de dire ça. Je veux dire, on ne peut pas s'arrêter uniquement à... Il y a des démocrates en Turquie, il y en a plein, et ils souffrent aujourd'hui, et il faut se mettre à leur place, quoi. Notre ami ici l'a rappelé, c'est terrible ce qui se passe. Quand vous apercevez que ce pays qui était en train de voir sa société s'autonomiser par rapport au pouvoir, qui cassait les tabous, qui osait parler de tous les sujets, et qui maintenant a peur, et ce pays est membre de l'OTAN, frappe à l'Union européenne, donc il y a vraiment de quoi se poser des questions. Oui, c'est une victoire.
Et de manière un peu cynique pour continuer là-dessus, Dorothée Schmidt, donc diplomatie du chantage, on a ce fameux accord sur les migrants avec l'Union européenne, donc j'en rappelle les termes, pour un migrant qui a été d'ailleurs, puisque ça a commencé cette semaine, renvoyé en Turquie, migrant jugé illégal, entré après le 20 mars en Union européenne, l'Union européenne va en accueillir un dans la limite des 72 000, un réfugié syrien. Donc cet accord fonctionne. On a entendu aujourd'hui, ou plutôt hier, Recep Tayyip Erdogan menacer de ne pas respecter les termes de l'accord. Mais c'est un accord qui apporte beaucoup à la Turquie quand même, potentiellement, Dorothée Schmidt.
Oui, alors comme j'ai toujours un train de retard, je vais juste commenter une chose qu'a dit Gaët, c'est que, et aussi ce qu'a dit Emre, c'est qu'on a effectivement une psychose aujourd'hui en Turquie. Cette psychose, elle concerne les libéraux, les opposants à Erdogan, y compris ceux qui ne sont pas libéraux, mais on a quand même peut-être... on va dire au moins 30% de la population qui adule Tayyip Erdogan. Donc c'est un peu ça aussi la question qui est compliquée dans la gestion du dossier turc, c'est qu'en fait, sans cesse, les autorités turques nous renvoient à la démocratie quand on leur explique qu'il y a un tournant autoritaire. Ils nous disent que le gouvernement est élu, qu'il a largement gagné les dernières élections législatives.
À 49%, je crois.
Voilà, et que Tayyip Erdogan est très populaire. Et donc il y a un vrai sentiment de légitimité de la part du gouvernement turc. Ensuite, sur la diplomatie du chantage, alors je crois qu'il n'y a pas besoin de remonter à l'époque ottomane, mais là, c'est vrai que dans les deux, trois dernières années, c'est vrai qu'on a ça s'est bien noué. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que ça fonctionne particulièrement bien avec l'Union européenne, à la fois parce que les États européens ont perdu ce type d'habitude, c'est-à-dire qu'effectivement, eux sont dans des relations diplomatiques qui sont apaisées, il y a des questions de protocole qui font qu'on arrive toujours à se sortir des choses. Vous voyez la façon dont ça a été géré par Obama, par exemple, la visite de Tayyip Erdogan. On a entendu tout à l'heure le président Obama parler. Avant de partir aux États-Unis pour une visite, pour un sommet nucléaire, Tayyip Erdogan avait triomphalement annoncé qu'il allait rencontrer Barack Obama et qu'il allait de surcroît inaugurer une mosquée dans le Maryland en compagnie du président américain. La Maison-Blanche avait refusé complètement l'invitation sur la mosquée et Obama a fait savoir qu'il ne verrait pas Erdogan. Puis il l'a vu effectivement, sans avoir mis le rendez-vous sur l'agenda. Bon voilà, tout ça, ça fait partie du protocole diplomatique qui permet de faire sentir à quelqu'un qu'on n'est pas content. Tayyip Erdogan casse totalement ce protocole diplomatique et les Européens sont un peu perdus sur ce plan-là. Et en plus, l'UE est une entité qui n'a pas de représentation diplomatique et de capacité de décision diplomatique commune qui soit opérationnelle. Et donc, c'est magnifique parce que en réalité, ensuite, le président turc rentre à la maison, il engrange des victoires symboliques et il dit, vous voyez, les Européens sont incapables de se mettre d'accord, sont incapables de gérer la crise des migrants, mais ce que j'ai obtenu, c'est 6 milliards d'euros et la libéralisation des visas pour le mois de juin. Et ce qu'il a dit hier, qui est très frappant, c'est que il n'appliquera pas l'accord si les Européens ne remplissent pas leurs obligations sur la question de la libéralisation des visas. Et alors là, on rentre dans une espèce de grand n'importe quoi. Parce que, en off, les diplomates européens vous disent clairement que ça n'aura jamais lieu. Sauf que Tayyip Erdogan passe son temps à répéter que ce sera fait et qu'au mois de juin, il n'y aura plus besoin de visa pour les Turcs pour aller en Europe.
Et alors, justement, cette question de la libéralisation des visas, quand même, elle peut apparaître importante. On pourrait se dire, a priori, voici une soupape qui est offerte à la population pour pouvoir partir, disons, pendant les vacances, pendant que la pression est mise. Comment est-ce que vous l'analysez, vous, Emre Demir? Pourquoi c'est si important d'obtenir cette libéralisation?
C'est très simple. Erdogan ne s'intéresse pas du tout à l'adhésion turque à l'Union européenne. Donc, il s'en fiche complètement. Et le vrai but de ces négociations, de cet accord pour Erdogan, c'est la libéralisation des visas, car il veut organiser un référendum constitutionnel, peut-être au mois de novembre, on estime, c'est une estimation. Mais avant ce référendum, il veut utiliser en fait la libéralisation des visas comme un cadeau aux Turcs et pour obtenir vraiment un score, pour obtenir la majorité absolue afin de changer la constitution et passer à un système dit présidentiel, mais plutôt un système autocratique. Pour revenir à cette diplomatie de chantage, oui, c'est vrai, il y a une diplomatie de chantage, mais c'est d'abord la faute des leaders européens. Comme ils n'ont pas pu développer une politique étrangère commune, ils étaient obligés de piller devant Erdogan. Et la vraie raison, à mon avis, c'est qu'il faut voir aussi, par exemple, Dorothée a parlé, donner l'exemple d'Obama. Si on regarde un peu les relations de Merkel avec Erdogan et d'Obama avec Erdogan, on voit vraiment la différence. Il y a un décalage, certes, sur la perception de la Turquie en Europe et ce qui se passe réellement dans le terrain, mais il y a aussi une méconnaissance d'Erdogan chez les leaders européens, surtout chez Merkel, Juncker, Jean-Claude Juncker, etc. Et par exemple, on croit en Europe que quand caressant le dos, quand caressant l'ego d'Erdogan, on peut obtenir des résultats. Et quand on caresse le dos d'Erdogan, il voit ça comme une faiblesse et pas comme un cadeau. Et il l'exploite au fond. Alors qu'Obama, par exemple, les États-Unis ont besoin de la Turquie. Mais Obama joue l'isolation, l'intimidation. Depuis les manifestations de Gezi, Obama a vraiment réduit le niveau de relation avec la Turquie, alors que les deux, ils étaient des amis proches. Obama a appelé Erdogan pendant des années, chaque jeudi, pour parler de la situation dans la région.
Donc, il y avait une alliance très, entre
très
deux.
Proche. Oui, oui. Et depuis les Gezi, ils ont cessé vraiment les relations personnelles. Et Obama joue l'intimidation, il obtient ce qu'il veut. Et alors que Merkel a fait le contraire, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'Europe est à piller devant Erdogan, alors qu'ils ont pu résister à Poutine. Poutine est cet leader beaucoup plus important, beaucoup plus fort qu'Erdogan, mais Poutine n'a pas pu faire ce qu'il veut après l'Ukraine, etc. Mais Erdogan, aujourd'hui, semble vraiment avoir la carte nécessaire pour faire toutes sortes de chantage à l'Europe.
Et alors justement, Gaïs Minassian, Obama n'a pas plié devant Erdogan. C'est vrai qu'il a absolument besoin, jusqu'à quel point, besoin de la participation de la Turquie dans le dispositif. En tout cas, je le disais en introduction, il y a des motifs de grief, la position un peu de spectateur à Kobané. Pardon, l'ingérence dans la ville d'Alep en bombardant les Kurdes du pays grec D, qui eux étaient alliés des États-Unis. C'est ça surtout qui a braqué Barack Obama en dernier recours, finalement,
Oh, ça devait être c'est un des épisodes, pour revenir à ce que vient de dire Emre sur la relation entre Obama et Erdogan. Au début du premier mandat d'Obama, quand on lui posait la question « qui sont les leaders politiques avec qui vous avez des bonnes relations ?» Il a répondu tout de suite Erdogan comme un véritable ami. Donc quand on voit, et comme l'a rappelé Dorothée, quand on voit comment s'est passée la dernière visite du président turc à Washington, on peut vraiment considérer que je pense qu'il est tombé dans l'échelle d'amitié dans la tête d'Obama. Maintenant, effectivement, l'affaire syrienne où on a vu, et c'était manifeste, les Turcs le disent eux-mêmes, le double jeu du régime dans la guerre de Syrie avec notamment Daesh et d'autres groupes islamistes. Et comment, sous les lumières, je dirais, de la communauté internationale, comment la Turquie a traité cette affaire de Kobané.
Ouais, parce que l'argument de Davutoğlu, je crois que c'était l'année dernière, il disait tout ça c'est une affaire qui est liée à Al-Maliki en Irak, l'ancien premier ministre, et puis c'est la faute de Bachar al-Assad, c'est mal géré par eux.
Oui, c'était ça. Et puis les déclarations au début, Daesh n'est pas notre ennemi, etc., etc. Et puis les coups contre les minorités chrétiennes et autres en Syrie. Donc, et d'ailleurs, quand on parle avec des militaires ici ou ailleurs, ils vous disent que, même avec des Turcs, des démocrates turcs, ils me disent qu'il y a parfois des réunions à l'OTAN où, donc à propos de la Syrie, où il n'y a pas de délégués turcs. Alors que la Turquie est membre de l'OTAN, que c'est la plus longue frontière avec la Syrie et qu'elle a vraiment un intérêt particulier pour la paix dans cette région. Mais en fait, entre les déclarations incendiaires d'Erdogan, Davutoğlu, plus la politique dangereuse de la Turquie en Syrie et en Irak, on peut effectivement, pour les Européens, pour les Occidentaux, pour Obama, se poser cette question qui... Et là, je rejoins ce que dit Dorothée quand elle parle de l'avenir de la Turquie en tant que pays stable, pays en danger. Je pense que la Turquie est un pays fort, je veux dire, mais effectivement, le terrorisme est revenu, il l'a alimenté aussi par des déclarations complètement folles de la part d'Erdogan pour obtenir ce qu'il voulait. Et aujourd'hui, dans une situation où on se demande s'il n'y a pas non pas la paix vers la Syrie, mais plutôt la guerre vers la Turquie, je veux dire.
Et de ce point de vue-là, précisément, Dorothée Schmidt, comment est-ce qu'il faut comprendre, on l'a beaucoup évoqué ici, mais effectivement, il y avait ce projet de politique du zéro problème avec les voisins au début du mandat d'Erdogan. Aujourd'hui, c'est complètement le contraire, et il s'en accommode en plus.
Non, pas du tout, il se réconcilie avec Israël.
C'est vrai qu'on l'a annoncé aujourd'hui.
Davutoğlu a annoncé que c'était presque réglé avec Israël. Le problème, c'est qu'il y avait quand même trois conditions qui étaient les excuses après l'affaire du Mavi Marmara. Donc,
voilà,
la fameuse brouille en 2010. Il y avait trois conditions qui étaient les excuses. Donc, Netanyahou a fait ses excuses après pression américaine forte. Des compensations financières qui ont été négociées pendant des années. Mais simplement, les Turcs demandent quand même la levée du blocus de Gaza. Donc, quand Davutoğlu nous explique que tout est réglé, je ne sais pas encore combien de temps ça va prendre pour se régler, mais en fait, il y a une espèce de diplomatie d'opportuniste aujourd'hui. C'est ça qui donne une impression aussi d'affolement de la diplomatie turque, finalement. On n'a pas l'impression que l'agenda soit extrêmement hiérarchisé. Mais si on veut résumer ce qu'on a dit, aussi bien sur les relations avec l'OTAN qu'avec l'UE, on observe depuis plusieurs années une espèce d'autonomisation de la diplomatie turque par rapport à ses alliés. Cette autonomisation prenait pas tant de problèmes tant qu'on était dans un environnement à peu près pacifié, que c'était juste une sorte de montée en puissance du soft power de la Turquie. Aujourd'hui, on est dans une région où on a des conflits partout. Et on va parler aussi du conflit du Karabakh, je pense, dans un instant.
On va en parler.
La Turquie se met à défendre ses propres intérêts dans des régions où elle a des frontières, ou bien elle est proche de lieux de conflit immédiats. La Syrie, la guerre, c'est quand même depuis 2011, on a pratiquement 300 000 morts, on a un rôle qui est extrêmement flou de la Turquie. Aujourd'hui, après des années d'hésitation, la Turquie est en train de sceller sa frontière avec la Syrie, parce qu'il y a quand même ce double problème à la fois des réfugiés et du passage des djihadistes. Donc il y a la construction d'un mur qui est organisé vraiment sur 300 km de cette frontière, aux endroits où les passages sont les plus problématiques pour la Turquie. On a le sentiment d'une politique turque qui est en Syrie, qui est complètement ambiguë, extrêmement difficile à lire pour ses alliés. On n'a pas vraiment les mêmes intérêts et c'est tout à fait normal à partir du moment où la Turquie, elle est mangée par cet environnement en conflit,
alors,
je dirais.
Il y a ça, et puis vous disiez une diplomatie opportuniste. Peut-être aussi, on peut se rappeler que c'était une diplomatie qui, au moment des printemps arabes, avait des vues quand même sur l'Égypte, sur la Libye. Aujourd'hui, ces terrains-là lui sont quasiment interdits, Emre Lemir.
Oui, je pense qu'il y a vraiment un retour
forcé. Libye, c'est aussi un des problèmes en Libye. C'est qu'il aurait fallu qu'on siffle la fin de la partie à un moment pour les puissances qui sont en train d'agiter.
Parce qu'ils soutiennent toujours Tripoli,
factions,
selon vous.
Ouais. Ouais.
Je pense qu'il y a un retour forcé vraiment de la Turquie vers l'Occident. Mais c'est un rapprochement vraiment pragmatique, opportuniste, comme doit être dit. Et parce qu'au début, quand ils ont venu au pouvoir, l'AKP avait défendu que les Kémalistes et l'armée turque amenaient une politique étrangère très passive, très occidentaliste, etc. Et ils ont commencé vraiment de suivre une politique étrangère très interventionniste, indépendantiste, multilatérale, etc. Et donc ils ont développé vraiment des relations avec les pays des régions. Et en fin de compte, cette politique interventionniste a totalement échoué. La Libye, l'Égypte, l'Irak, la Syrie, l'Iran, la Russie. Donc, tous ces alliés, la Turquie a perdu. Et aujourd'hui, on assiste vraiment avec le rapprochement, un rapprochement avec l'Israël, un rapprochement avec le régime de Sisi en Égypte, le rapprochement avec Bruxelles. On sent qu'il y a vraiment un retour vers les...
Le rapprochement avec Bruxelles est quand même un petit peu pas très clair.
Il y a une volonté, en fait, de se faire accepter le régime actuel en Turquie, parce qu'on assiste vraiment à une transition de régime. Si on interprète le changement avec ce qui se passe à la politique intérieure, donc Erdogan veut créer un régime autocratique en Turquie, et il veut jouer le rôle de gardien de l'OTAN face à djihadistes, face à la menace des djihadistes ou des réfugiés, etc. En échange, il veut obtenir vraiment la légitimité, une certaine légitimité, le traitement prestigieux de son régime à Bruxelles. Il veut être accueilli par Obama en gardant tout son régime presque dictatorial.
Oui, donc une position défensive, en même temps obtenir cette légitimité internationale par la même. Gaïd Zmination, il y a autre chose, j'y pense, que de ce point de vue-là, Recep Tayyip Erdogan et la diplomatie turque ont perdu. C'est aussi ce parrainage islamique dont il se prévalait avant avec l'AKP, même si on voit que aujourd'hui, Erdogan est allé faire une tournée dans l'ouest de l'Afrique, dans l'est également. Il propose d'aider la Somalie, notamment, qui continue à aider. Il propose d'aider également le Nigeria dans la lutte contre le terrorisme. Ils ont quand même perdu une aura de ce point de vue-là.
Oui, l'idée au départ, quand Erdogan est arrivé au pouvoir avec Davutoğlu comme un théoricien de la diplomatie nouvelle turque, c'était donc diplomatie zéro problème aux frontières. Diplomatie globale même, puisqu'on allait chercher des intérêts en Afrique, en Amérique latine, ce qui était intéressant d'ailleurs pour un émergent de voir comment... Et puis même, souvenez-vous aussi, l'initiative turco-brésilienne avec le concours des Américains dans le cadre des négociations sur le programme du nucléaire iranien en 2010-2011. Ah, donc il y avait une volonté de devenir un partenaire global crédible. Et au départ, les premières années de la diplomatie Erdogan étaient assez intéressantes. 2003-2008, on entendait le discours et effectivement, ça a changé avec le printemps arabe. Ça a changé parce que au départ, la Turquie, au nom d'une sorte de solidarité sunnite, jouait la carte avec certains nouveaux régimes. Et puis, ils ont perdu. Ils ont perdu petit à petit ses soutiens. Je ne parle même pas de la Syrie, qui, au départ, il y avait une sorte d'alliance. Je me souviens je vois encore à la télé Bachar el-Assad, à la télé parisienne, en France, dire il faut impliquer la Turquie dans la région. Il jouait à fond cette carte aussi. Et donc là, on a tout perdu. Et aujourd'hui, Dorothée a parlé de la Libye, on a parlé de l'Égypte, la Syrie, l'Irak. Vous remarquerez que c'est que des anciennes colonies, je dirais, des anciennes provinces ottomanes. Et ça pose on parle aujourd'hui, on revient avec Daesh, on revient sur, c'est la fin de la carte, c'est avec Caspico, le fameux accord 1916. Ouais. On parle aussi avec les Kurdes, c'est le traité de Sèvres. Donc on revient à 1918, voire même un peu avant. On revient à ça. Et ça veut dire qu'on n'a pas réglé le problème quelque part. Pourquoi on n'a pas réglé le problème? Parce que tous les États qui sont nés sur les décombres de l'Empire ottoman ne sont pas des États de droit, on le sait. Ce sont des États violents. On le sait, parce qu'on n'a jamais réussi à retirer cette violence structurelle des États. Et on peut revenir même à quelque chose de fondamental dans l'histoire turque. et qui est en train de devenir de plus en plus fondamentale, c'est l'histoire du génocide. Un génocide, quel que soit le lieu, quel que soit le peuple qui en est victime, c'est une telle faille dans le système international et dans un système d'un État qu'on ne peut pas le mettre de côté ou à la fin d'un processus. Je prends un exemple tout bête. Au début des années d'Erdogan, au pouvoir, on parlait d'islam modéré, vous vous souvenez. Ici, il y avait des turcolâtres partout, oh là là, Erdogan par-ci, Erdogan par-là, etc., etc. Moi, j'ai fait partie des gens assez réalistes et assez... J'attendais de voir. J'ai jamais fait partie des... J'ai plein d'amis en Turquie et ici aussi, mais j'ai toujours fait partie. Avec eux, d'ailleurs, ils étaient aussi assez sceptiques ou assez réalistes. Jamais fait partie de cette tendance-là. Et effectivement, aujourd'hui, personne n'en parle. Les turcolâtres d'hier, ils sont où aujourd'hui ? Moi, je voudrais que la Turquie soit une démocratie. Je veux dire, je voudrais que la Turquie respecte les libertés. Encore faudrait-il pour cela que l'état de droit soit garanti, que l'Europe fasse son travail, et que la communauté internationale comprenne que ce qui se passe actuellement en Syrie, en Libye, en Irak, etc., tout ça, ce sont des vestiges d'un raté en 1823 de la résolution de la fin de l'Empire ottoman.
Donc une
c'est ça. Et donc c'est ça qui est important. Si on veut la paix, il faut traiter de fond en comble cette question de l'effondrement de l'Empire ottoman.
C'est ça, une violence, pour le dire de manière très laide, non gérée historiquement, qui aujourd'hui s'exprime. Pour terminer peut-être sur quelque chose d'un peu plus, disons, pragmatique ou cynique, c'est cette question du Haut-Karabakh. Vous vouliez en parler, Dorothée Schmidt. C'est vrai que c'était assez étonnant de voir intervenir Recep Tayyip Erdogan, après d'ailleurs Vladimir Poutine. Vladimir Poutine qui intervient, lui, pour signifier la paix, comme médiateur qui se propose. Et puis Recep Tayyip Erdogan qui jette de l'huile sur le feu. Comment est-ce qu'il faut comprendre cette attitude de soutien, je le disais, martial jusqu'au boutiste, presque, à l'Azerbaïdjan ?
Bon, alors là, c'est la diplomatie du grand frère. Je pense que Emre pourrait vous expliquer mieux ce que ça signifie, être azéri, être turc, la différence, ou ce qui fait que c'est la même chose. Mais vu de Turquie, c'est, les azéris, c'est des turcs, quoi. Hein. D'ailleurs, ils peuvent obtenir la nationalité turque très facilement, si j'ai bien compris, puisqu'en ce moment, on s'interroge sur la question de la nationalité, puisqu'il y a aussi cette menace de déchéance de nationalité pour les partisans du PKK qui pourraient toucher aujourd'hui les députés kurdes aussi du Parlement turc.
Et cependant, ensuite, c'est pas juste le grand frère là,
non,
qui
non, a... donc il y a le grand frère, il y a la rivalité avec la Russie évidemment, et alors là à mon sens Erdogan se fait complètement piéger par Vladimir Poutine, parce que je vois pas très bien ce qu'il pourrait faire pour il peut pas intervenir militairement au Karabakh. Il peut effectivement aider le Karabakh. Ce à quoi il aboutit, c'est à se mettre encore plus à dos ses alliés, même si Emre parle de rapprochement forcé avec l'Alliance. Il a dénoncé le groupe de Minsk en expliquant que tout le monde est absolument incapable de gérer cette situation et que lui, depuis des années, faisait des suggestions pour que ça s'arrange. Donc c'est une espèce... Encore une fois, on est sur un coup d'opportunité, mais à mon avis, avec une série de calculs ratés, quoi. Je dois dire que...
Parce qu'il n'y a pas un calcul intérieur également, aussi. C'est pas un coup de menton à l'Arménie.
Oui, c'est ça. Alors effectivement, là, nous, comme on voit ça de l'extérieur, on voit le calcul géopolitique, on se dit, mais où est-ce que ça amène? C'est-à-dire que moi, quand je l'entends dire qu'il va éradiquer le PKK, je pense pas qu'il va y arriver. Quand je le vois affronter Vladimir Poutine sur tous les terrains, je me dis que ça va être comme sur la Syrie, il va se ridiculiser. Donc effectivement, on voit pas très bien où ça l'amène. Mais en interne, dans cette espèce de forteresse assiégée qui est devenue la Turquie pour les partisans de la KP, ça fonctionne. Et je voulais quand même dire un truc encore un peu abstrait par rapport à ce que suggérait Edgar, ce que je trouve très intéressant sur la fin de l'Empire ottoman, c'est qu'en fait, il me semble en filigrane que ce que tu dis, c'est que les Turcs ont une espèce de vision néo-ottomane, donc néo-réactionnaire. Et aujourd'hui, ce qui met en cause ça, ce qui est très intéressant, c'est... On a au moins deux projets révolutionnaires dans la région qui ne nous arrangent pas du tout. C'est celui de Daesh et celui des Kurdes. Et si on interprète en termes politiques comme ça la question, eh ben on voit qu'on n'est pas sorti de l'auberge.
Alors Gaïs Mination, vous vouliez commenter ?
Alors, pour revenir d'abord sur le Karabakh, la Turquie soutient militairement l'Azerbaïdjan. Il y a des instructeurs, des conseillers, des armes turques. Par exemple, on sait que les snipers azéris sont formés par des snipers... turc.
Donc il y a une réalité,
il y a une réalité, bien sûr. Il y a eu, avant les derniers incidents de la nuit du 1er au 2 avril, là, entre le Karabakh et l'Azerbaïdjan, quelques semaines avant, même pas quelques jours avant, il y avait des manœuvres conjointes entre l'armée turque et l'armée azerbaïdjanaise. Non, moi je crois que, d'abord, c'est pas nouveau que la Turquie se mêle du Karabakh. La Turquie est membre du groupe de Minsk. Le groupe de Minsk, c'est un groupe de contact qui a été créé par l'OSCE et qui est coprésidé par la France, la Russie et les États-Unis. Et dans ce groupe de Minsk, il y a 11 pays, dont la Turquie. Et effectivement, la Turquie considère que ça suffit, il n'y a rien qui est fait concrètement, ce qui, comme ça, depuis temps plein, on a envie de dire oui, c'est pas faux, mais en même temps, que faire, puisque les deux parties en question se jettent la responsabilité d'un échec. Et là, récemment, on dirait que l'Azerbaïdjan avait plus intérêt à lancer les opérations militaires parce que, justement, l'impasse diplomatique, rien ne change. Ça s'est pas bien passé pour Aliyev à la conférence de Washington.
Donc ça, c'est pour l'Azerbaïdjan et pour la Turquie.
Pour la Turquie, l'intérêt, c'est à mon avis d'embêter sur un autre terrain Poutine. C'est vrai qu'il y a, mais c'est pas le facteur essentiel pour Karabakh et Azerbaïdjan, mais ce qu'a dit Erdogan, c'est-à-dire je soutiendrai jusqu'au bout l'Azerbaïdjan, et Davutoğlu qui dit jusqu'à l'apocalypse. Faut se rendre compte ce que ça veut dire, quoi. Je veux dire, on en est où là? C'est totalement ridicule. Un pays membre de l'OTAN. Et les deux têtes de l'exécutif, jusqu'au bout, ça veut dire quoi? Ça veut dire, quelle que soit la décision prise par Bakou, je soutiendrai? Ou est-ce que ça veut dire, je suis prêt à envoyer aussi des troupes dans la région, je veux dire, du calme?
C'est pour ça que je posais la question en début d'émission, à savoir si c'était une diplomatie qui existait encore, qui était effectivement le fruit d'une stratégie de la tension, ou une diplomatie complètement erratique. Je pense que ce sera à suivre, on est en train de finir l'émission, on n'aura pas le temps d'en rediscuter. Mais peut-être dernière chose, c'est aussi ces déclarations envers le Karabakh, un geste qui peut séduire l'extrême droite dont a besoin aujourd'hui au Parlement Recep Tayyip Erdogan. Alors on suivra cette situation, mais je vous remercie beaucoup d'être venus à tous les trois aujourd'hui. Dorothée Schmidt, directrice du programme Turquie contemporaine de l'IFRI, Gaïd Zminasian, journaliste au Monde, chercheur associé à la Fondation pour la Recherche Stratégique, et Emre Demir, bien sûr rédacteur en chef pour la version française du quotidien national turc Zaman. Voilà, lie, 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 mensonge, mensonge, mensonge par Serge Tankian, le chanteur arménien de System of a Down. Merci à toute l'équipe de Culture Monde, Clément Salzar, Antoine Dulster, Tiffaine de Roquigny, notre stagiaire Hélène Paquet, Charles Le Gargasson à la réalisation, à la technique, c'est Nicolas Delmas. Vous retrouverez la semaine prochaine Florian Delorme à ce micro. En attendant, bon week-end, et puis tout de suite, c'est La Vie Moderne.